Vous êtes sur RTL.
RTL dimanche soir, Vincent Parisot. Bonsoir Vincent.
Bonsoir Myriam. Bonsoir à toutes et à tous. Et ça y est, le mondial au Qatar a commencé.
Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux. Depuis ici, le Qatar, depuis un pays arabe, soyez la bienvenue pour la Coupe du Monde 2022.
Voilà donc comment l'émir du Qatar a annoncé tout à l'heure l'ouverture de ce mondial. On va y consacrer une large place dans RTL dimanche soir jusqu'à 19h15, l'heure à laquelle Isabelle Langer prendra le relais. Et ensuite, à 20h, votre rendez-vous quotidien, on refait la Coupe du Monde avec ce soir Christophe Paco, Xavier Domergue, Yoann Riou. Notamment, le match d'ouverture est en cours, Qatar-Équateur. C'est la mi-temps, 2-0 pour l'Équateur. Nous serons au stade Al-Bayt avec l'un des envoyés spéciaux d'RTL dans un instant. Il a aussi suivi la cérémonie d'ouverture et il va nous en parler. On ira aussi respirer l'ambiance autour de cet événement planétaire marqué par les polémiques, notamment dans le souk de Doha. Et puis bien sûr, on va prendre des nouvelles des Bleus à 2 jours de leur entrée en lice face à l'Australie et au lendemain de l'annonce du forfait de Karim Benzema. Benzema qui ne sera pas remplacé, Didier Deschamps l'a annoncé. Gros coup dur qui refroidit quand même les espoirs des supporters. Tout le mondial donc, c'est dans un instant. Dans l'actualité également ce soir, le choc à Tonneins dans le Lot-et-Garonne au lendemain des aveux du meurtrier de Vanessa, 14 ans, enlevé à la sortie de son collège. Sa garde à vue a été prolongée. Le ministre de la Santé François Braun sur RTL au Grand Jury. Pour la bronchiolite, il parle d'un infléchissement de l'épidémie. Pour la pénurie d'antibiotiques, amoxicilline, il annonce un règlement dans les semaines ou les mois qui viennent. Vous l'entendrez et puis on reviendra sur son Grand Jury RTL, Le Figaro, LCI à 18h30 dans le MacPol. Aux États-Unis, dans le Colorado, une fusillade dans un bar LGBT. Bilan 5 morts, 18 blessés. Le tireur a été arrêté. Et puis des réactions souvent teintées de déception après la COP27 de Sharm el-Sheikh, faute de nouvelles avancées sur la baisse des émissions. La France regrette le manque d'ambition sur cette question. Le rugby, France 35, Japon 17. Les Bleus terminent en beauté leur série de test matchs de l'automne. Ils restent maintenant sur 13 victoires d'affilée. Le quintet de Vincennes, 2, 15, 8, 17 et 7. Donc à 18h30, le MacPol, toute l'actualité politique. Et aussi un invité, l'ancien vice-président du MEDEF, Thibault Langsad. Il porte le projet de dividendes salariés que le gouvernement entend mettre en œuvre. Et puis avant 19h, comme chaque dimanche, on refera la planète avec Alain Bougrain-Dubourg. Bonsoir Valérie Quintin.
Bonsoir.
Gros temps en vue.
Oui, on a une belle grosse dégradation qui va aborder la façade ouest demain matin. Des pluies soutenues, des vents forts qui concerneront donc toute la moitié ouest en matinée. Pluies et vents qui vont se décaler vers l'est du pays dans le courant de la journée. La bonne nouvelle, c'est que ça va nous apporter de la neige en montagne, à moyenne altitude, aux alentours de 1500 mètres, mais on va vraiment avoir beaucoup de pluie. À l'arrière de la dégradation, le nord-ouest pourrait récupérer quelques éclaircies entre les averses l'après-midi, toujours avec beaucoup de vent. La Corse, quant à elle, aura du soleil le matin, mais pas l'après-midi, puisqu'on attend de gros orages. Les températures, ça baisse, comme ça tout y est. 1 degré prévu à Aurillac, au réveil, 6 à Paris et Metz, 7 à Brest, 8 à Perpignan. Dans l'après-midi, comptez 8 degrés à Reims, 10 à Paris et Lyon, 11 à Cherbourg, 13 à Montpellier, 16 à Biarritz. Et figurez-vous que mardi et mercredi, c'est à peu près le même topo, de grosses pluies, des orages, du vent, de la neige en montagne et des températures au ras des pâquerettes.
Mais bien, merci pour ces bonnes nouvelles. Merci Valérie.
RTL dimanche soir avec Vincent Parisot.
La 22e Coupe du Monde de football est donc lancée après la cérémonie d'ouverture sur laquelle on va revenir bien sûr. On est entré dans le vif du sujet avec le premier match. Il oppose le pays organisateur, le Qatar, à l'Équateur et on est en direct du stade Al-Bayt avec l'un des envoyés spéciaux d'RTL. Bonsoir Hugo Hamelin.
Bonsoir à tous.
C'est la mi-temps hein.
Exactement, et c'est les visiteurs, l'Équateur qui mène 2-0 face au Qatar qui a la tête sous le sable, l'Équateur qui a largement dominé cette première mi-temps, doublée de Valencia donc. Mais peut-être le premier scandale sportif de cette Coupe du Monde. Troisième minute, les Sud-Américains qui ont ouvert le score de la tête. La partie a repris, puis le VAR est intervenu rapidement. Annulation du but pour hors-jeu, incompréhensible, incroyable. Heureusement, avec cet avantage à la mi-temps, la justice sportive a été rétablie.
Oui, cette intervention du VAR, elle fait déjà beaucoup parler et réagir sur les réseaux sociaux. En tout cas, le Qatar est la seule des 32 équipes en lice à disputer la Coupe du Monde pour la première fois. Vous l'avez dit, elle est largement dominée. On ne peut pas dire que l'équipe est convaincante.
Non, exactement. Ils ont commencé un petit peu la peur au ventre avec 5 défenseurs sous les yeux de l'émir. Vous imaginez bien que l'émirat attend le début de cette compétition depuis 12 ans désormais. Et forcément, la différence de niveau se voit tout simplement entre une équipe qui n'a jamais disputé une Coupe du Monde, qui n'a pas une grande expérience internationale. Tous les joueurs de l'équipe du Qatar jouent dans les clubs qataris, pas un niveau formidable non plus. Et donc les Équatoriens ont su faire déjouer cette équipe très rapidement.
Alors Hugo, vous continuez bien sûr à suivre ce match d'ouverture. Mais parlez-nous maintenant de la cérémonie qui a précédé, cérémonie notamment marquée par un discours de l'acteur américain Morgan Freeman.
Ouais, exactement. Alors c'était un spectacle qu'on qualifiera de plutôt sympa, mais on nous avait promis un déluge de technologie. On a eu 3 dromadaires sur la pelouse. Je suis un petit peu méchant, mais c'est vrai, de jolies chorégraphies, mais aucune star de la chanson. Seulement voilà, l'acteur américain qui est venu jouer un petit peu le maître de cérémonie. Par contre, le stade est absolument magnifique, le stade est absolument incroyable, avec une architecture inspirée d'une tente bédouine. On est ici à 1 heure de route de Doha, donc vraiment c'est désertique autour. Une tente donc de 60 000 spectateurs ce soir, et avec une climatisation qui fonctionne depuis le début de la journée dans ce stade au Qatar.
Et le stade, il est bien plein, Hugo ?
Alors pas exactement, on doit être à 80% de remplissage environ. Donc voilà, pas plein parce qu'il y a eu des petits problèmes de transport. Je vous l'ai dit, on est à une centaine de kilomètres de la capitale. Et puis on a eu peut-être un nouveau début de polémique avec ces histoires de faux supporters. On a toute une partie de la tribune qatari avec des supporters qui sont arrivés en même temps, tous le même t-shirt, le même drapeau, qui font la même chorégraphie. C'est vraiment très discipliné. Et voilà, c'est une tribune d'ultra qatari, on va dire, qui a été créée pour l'occasion, pour faire face aux 3-4 000 équatoriens qui donnent de la voix depuis le début du match. En plus, ce sont eux qui mènent au score.
Merci Hugo Hamelin. Évidemment, on vous retrouvera notamment dans le journal de 19h. Vous continuez à suivre ce match d'ouverture. Je vous rappelle donc que le Qatar est mené actuellement 2-0 par l'Équateur. En dehors du stade, voyons maintenant quelle est l'ambiance à l'heure de l'ouverture de cette Coupe du Monde. On l'a dit, controversée, marquée par des polémiques. La fête bat-elle son plein ? Morad Jabari, vous êtes dans le centre de Doha et plus précisément, vous êtes au souk.
Oui, au fil de la journée, le souk de Doha est devenu plus animé, plus bruyant que d'habitude grâce aux supporters sud-américains, notamment les Argentins qui déambulent avec leur Coupe du Monde en plastique dans ce dédale de
ruelles.
Nous sommes les plus nombreux, on vient d'Argentine mais aussi de tout le monde entier. Ce week-end, 7 avions remplis d'Argentins se posaient ici pour Messi et parce qu'on va être champion du monde.
Et une fois le coup d'envoi donné sur la pelouse, le match Qatar-Équateur se déroule aussi dans les rues étroites et poussiéreuses du marché traditionnel de Doha. Les supporters se chauffent gentiment sous le regard amusé du seul Français dans les parages, Alain, qui vient de La Réunion.
On sent l'ambiance montée. Alors beaucoup d'Argentins, beaucoup de Mexicains dans les rues. Pas beaucoup de Français pour l'instant, mais on espère que ça va venir. Moi, ça fait la 9e Coupe du Monde que je fais, depuis 1982. Donc celle-ci, elle me paraît bien organisée déjà. L'accueil est formidable.
Alain va avoir besoin de renfort ces prochains jours parce que les Sud-Américains sont en nombre et en forme.
Voilà, et on l'entend, il y a de l'ambiance. Morad Jabari dans le souk de Doha. Morad qui, vous l'avez entendu, a trouvé un supporter français parce que, rappelons-le, l'équipe de France va jouer son premier match mardi face à l'Australie. Et on ne peut pas vraiment dire que l'ambiance soit au beau fixe hein, depuis l'annonce hier soir du forfait de Karim Benzema pour ce mondial. Didier Deschamps, interrogé sur TF1 ce midi, n'a pas caché sa déception.
Mais c'est un gros coup dur, bien évidemment. Karim avait tout fait, nous aussi. Il était en séance et sur un geste quasi anodin, voilà, l'autre jambe est devant alors que c'était l'ischio sur la première. Il a ressenti une douleur musculaire et les examens ont confirmé malheureusement une lésion trop importante par rapport aux échéances qui nous attendent. Ça fait jamais plaisir et ça donne pas le sourire. Déjà, on avait perdu Christopher et tout le monde était très triste. Là, évidemment, c'est Karim. Mais on a un objectif et le groupe sait très bien ce qui nous attend avec un match mardi. Il y a un groupe de qualité dans tout ce qu'ils font, sur et en dehors du terrain, solidaire. J'ai confiance en eux. On va tout faire déjà sur ce premier match.
Voilà, j'ai confiance en eux, on va tout faire, dit Didier Deschamps, c'était sur TF1 à la mi-journée. Le sélectionneur qui a par ailleurs annoncé qu'il ne fera pas appel à un nouvel attaquant pour remplacer Karim Benzema. Alors on en parle avec l'un des envoyés spéciaux d'RTL, les nombreux envoyés spéciaux. Bonsoir Philippe Sanfourche.
Bonsoir.
Alors, ça veut dire que le sélectionneur estime qu'il a suffisamment d'attaquants dans son groupe pour pallier cette absence de Benzema ?
Bah oui, clairement, hein, c'est la première et principale explication à ce titre. On peut d'ailleurs rappeler qu'il avait probablement anticipé hein, ce cas de figure, cet épilogue douloureux, dès le début du rassemblement, en appelant Marcus Thuram, 5 jours après l'annonce de sa liste initiale. Thuram, attaquant de pointe, comme Karim Benzema ou Olivier Giroud. En tout, finalement, Didier Deschamps dispose de 7 joueurs offensifs, dont 5, avec Antoine Griezmann, Kylian Mbappé ou encore Randal Kolo Muani, peuvent évoluer à ce poste spécifique d'avant-centre. Pas d'obligation numérique donc, mais surtout, c'est une question de timing pour Deschamps. Sa préoccupation majeure désormais, vous l'avez entendu, c'est de recentrer la vie de l'équipe de France, des joueurs mais aussi de l'environnement sur l'entame de la compétition. On est à 48 heures maintenant de France-Australie. Plus le temps d'intégrer un nouveau joueur qui serait en plus un remplaçant, hein, sans grande chance de jouer. L'énergie doit être intégralement dédiée à la préparation d'un groupe très inexpérimenté. On peut rappeler que 15 d'entre eux vont découvrir ce qu'est une Coupe du Monde.
Encore un mot, Philippe Sanfourche, dans cette hécatombe, il y a quand même un rescapé, c'est Varane.
Oui, Raphaël Varane, d'ailleurs, je peux vous donner des nouvelles rassurantes. Il avait déjà participé à l'entraînement collectif hier. C'est le cas en ce moment même dans cet entraînement qui est en train de se dérouler. Donc on peut estimer, c'était en tout cas ce que Didier Deschamps avait annoncé, que s'il était prêt ce week-end, il serait disponible pour mardi. Enfin, une bonne nouvelle.
Voilà, Philippe Sanfourche, l'un de nos envoyés spéciaux au Qatar pour cette Coupe du Monde. Évidemment, ce forfait du Ballon d'Or tricolore à la veille de l'ouverture de la Coupe du Monde a un peu refroidi les espoirs des supporters français, notamment chez les fans de l'attaquant madrilène. Vous l'avez constaté à Nancy, Dimitri Ramelot.
Oui, bord de pelouse, Alexis regarde son fils de 7 ans jouer un match d'équipe de jeunes, maillot floqué numéro 19, le même que Karim Benzema en équipe de France.
C'est catastrophique, il manquait plus que ça. Même si on a déjà gagné la Coupe du Monde 2018 avec les mêmes joueurs, en fait, le trio d'attaque devant, j'ai peur qu'entre les deux milieux de terrain qui ne seront pas là, plus celui devant. Si on faisait demi-finale, c'était déjà bien. Aujourd'hui, si on fait huitième ou quart, on pourra dire que c'est réussi.
Et Émilie, qui attend la fin de la séance de son fils, est surtout désolée pour l'attaquant français 34 ans, qui n'aura probablement plus la possibilité de jouer une Coupe du Monde.
Il venait de décrocher le Ballon d'Or, il revient après une blessure, une longue absence en équipe de France. Non, c'est vraiment dur.
Pourtant, certains comme Marine, dont le mari est un inconditionnel de l'ancien Lyonnais, ne voient pas d'un si mauvais œil l'absence du numéro 9 du Real Madrid.
Ah bah moi, je suis ravie. Hein. Écoutez, ça va être calme, ça va être tranquille. Je l'entendrai pas crier ni hurler dans toute la maison le long de la Coupe du Monde. Hein. Vous m'en voyez ravie.
Pas la même réaction chez son petit Hugo, réduit à coller les vignettes Karim Benzema dans son album de la Coupe du Monde.
Dimitri Ramelot, non pas à Nancy d'ailleurs, mais à Metz pour RTL. Allez, une courte pause. Dans un instant, bronchiolite, amoxicilline, les infos plutôt rassurantes du ministre de la Santé.
RTL dimanche soir.
Fans de foot, attention, la compétition débute aujourd'hui. Ne manquez aucun match et suivez les rencontres en direct et sur écran géant avec les restaurants au bureau.
RTL, vivre ensemble. RTL Matin, Amandine Bégaud et Yves Calvi.
RTL Matin, c'est LA référence sur l'information.
Mais aussi, 4 rendez-vous pour se détendre et rire avec un humoriste chaque demi-heure. Alors à demain.
RTL Matin, c'est du lundi au vendredi de 7h à 9h.
Sephora, j'aimerais que tu te sentes belle. J'aimerais que tu te sentes belle partout où tu vas. Que tu révèles ta personnalité. Que tu oses plus. Pendant le Black Friday, tous vos vœux seront exaucés. Jusqu'au 28 novembre chez Sephora, il y a moins 30% sur les parfums et les coffrets parfums. Moins 30% pour vous faire plaisir sur Sephora.fr ou en magasin. Voir conditions sur Sephora.fr.
Sephora, the unlimited power of beauty. Le pouvoir infini de la beauté.
BMW. Dis donc, ton beau-frère, tu l'as cloué ce midi.
Il croit toujours qu'il a les meilleurs plans. Mais là, sur l'entretien de ma BMW, il est resté sans voix. Chez BMW Service, je bénéficie de l'expertise des techniciens, de la qualité des pièces d'origine et de 30% de remise minimum sur des opérations d'entretien si ma BMW a plus de 6 ans.
Ça, c'est un bon plan.
Et jusqu'au 15 décembre, profitez de 50 euros de remise pour les 1000 premiers rendez-vous en ligne. Voir réseau participant et détails sur bmw.fr. BMW Service. Votre BMW est entre de bonnes mains.
top. 30 secondes, c'est peu pour vous dire que cet automne, vous pourrez profiter de l'intégralité de la Coupe du Monde de la FIFA Qatar 2022 sur beIN Sport, découvrir Mercredi, la série imaginée par Tim Burton, disponible le 23 novembre sur Netflix, et regarder Trigger Point, la série britannique sous haute tension en ce moment seulement sur Canal+. Et top.
Jusqu'au 30 novembre, profitez de la série limitée Canal+, Netflix et beIN Sport à 29,99€ par mois les 12 premiers mois, puis 40,99€ par mois hors option TV+ pour un engagement de 24 mois. Voir conditions sur boutique.canalplus.com.
Moi, le matin, je file à la douche pour me réveiller et j'économise 10% d'énergie. Comment ? J'ai réglé mon chauffe-eau à 55 degrés et je prends des douches moins longues. En plus, fini les retards.
Pour économiser l'énergie, on agit, on réduit. Je baisse, j'éteins, je décale. Chaque geste compte. Ceci est un message du gouvernement.
RTL. Les paris sportifs ne sont pas sans danger. Les problèmes d'addiction, ça arrive, et plus vite qu'on ne le pense. Gagner, perdre, chercher à se refaire, c'est le début des problèmes. Plus d'informations sur le site joueurs-info-service.fr. Ceci est un message du ministère chargé de la Santé et de Santé publique France.
18h-19h15, RTL dimanche soir.
Avec Vincent Parisot.
François Braun, le ministre de la Santé, était donc l'invité du grand jury RTL Le Figaro LCI à la mi-journée. Il a bien sûr répondu à de nombreuses questions sur les deux dossiers brûlants dont il a la charge. La pénurie de médicaments, notamment pour l'antibiotique amoxicilline, mais aussi l'épidémie de bronchiolite qui submerge les services d'urgence pédiatrique.
Nous avons déclenché le plan Orsan, qui est un plan de mobilisation un petit peu national. Les données de Santé publique France, hein, qui me renseignent quasi quotidiennement sur l'évolution de l'épidémie, montrent un infléchissement depuis une semaine. Pour autant, il ne faut pas se réjouir trop vite. Hein, ça peut être un effet des dernières vacances scolaires. Donc nous suivons de très près ces indicateurs pour adapter la réponse en permanence. Nous avons des tensions sur nos stocks de médicaments. On parle aujourd'hui de l'amoxicilline. Nous avons remobilisé l'ensemble du secteur, bien entendu. Nous interdisons la revente d'amoxicilline qui serait chez nous. On ne peut plus la revendre dans d'autres pays. Je viens d'autoriser les pharmaciens au déconditionnement.
Mais ça veut dire un retour à la normale à peu près quand ?
C'est un retour à la normale dans les semaines et mois qui viennent. Mais vous savez, les chaînes de production tournent à plein régime. On ne peut pas aller plus vite.
Voilà, le ministre de la Santé, François Braun, au grand jury sur RTL. On y reviendra évidemment dans le MacPol. En Ukraine, la centrale nucléaire de Zaporijjia, de nouveau sous les bombes. L'Agence internationale de l'énergie atomique annonce que le site occupé par l'armée russe a été touché par une douzaine d'explosions. L'Ukraine et la Russie s'accusent mutuellement. Le directeur général de l'AIEA dénonce une situation inacceptable, mais il précise que la sécurité de la centrale n'est pas mise en cause. Il s'est entretenu d'ailleurs ce matin avec Emmanuel Macron et le président français a fait savoir qu'il allait parler à Volodymyr Zelensky dans la journée. Et puis en Syrie, une trentaine de morts dans les raids lancés par la Turquie hier, des combattants kurdes et des soldats syriens, d'après l'Observatoire syrien des droits de l'homme. L'opération intitulée Griffe épée est une réponse turque à l'attentat d'Istanbul la semaine dernière. Et puis c'était une tragédie qui rappelle celle d'Orlando en 2016. Une nouvelle fusillade a eu lieu hier soir aux États-Unis dans une discothèque LGBT à Colorado Springs, cette fois dans le Colorado. Le bilan est de 5 morts et 18 blessés. Le tireur a pu être maîtrisé par des hommes que la police qualifie d'ailleurs de héros aux États-Unis. Pour RTL, Karine Houten.
Oui, les autorités de Colorado Springs sont extrêmement précautionneuses dans leur description des faits. On sent qu'elles ont tiré les leçons de la fusillade d'Uvalde au Texas au printemps dernier, mais elles ont d'ores et déjà rendu hommage à deux témoins qui ont maîtrisé le tireur de 22 ans vite après qu'il ait ouvert le feu. Sans eux, elles sont sûres que le bilan serait encore plus lourd. Tout s'est passé très vite. Les secours ont reçu un premier appel à 23h56. Le jeune homme portait deux armes, dont un fusil. Sa fusillade dans la boîte gay a fait pour l'instant 5 victimes et 7 des blessés sont encore en état critique. 6 minutes plus tard, il était emmené par la police. Les enquêteurs sont en train de vérifier que le tireur a bien agi seul. Il n'a pas encore expliqué ses motivations.
Karine Houten aux États-Unis pour RTL. Courte pause et dans un instant, l'émotion à Tonneins après le meurtre de la jeune Vanessa. A tout de suite.
Vincent Parisot.
RTL dimanche soir.
BNP Paribas présente Mon Business Assistant Expert en partenariat avec OneUp. La solution qui donne un coup d'avance aux professionnels grâce à un service collaboratif de gestion financière qui leur permet de gérer leur activité pendant que leur expert comptable s'occupe du reste. BNP Paribas, la banque d'un monde qui change. Voir conditions et tarifs sur mabankepro.bnpparibas.
Le Yeti passait encore une journée de mauvais poils. Pauvre bête. Alors, quand il entendit qu'il y avait jusqu'à moins 35% pendant la Black Friday Week Amazon, Il se fit plaisir avec un sèche-cheveux volumisant pour avoir un style au poil. Trop cool ce look. Économisez jusqu'à 35% pendant la Black Friday Week Amazon. Se termine le 28 novembre.
Choisir le fromage Grana Padano, c'est embrasser les valeurs italiennes qui le rendent unique. Parce que dans Grana Padano, il y a le goût de l'Italie. Grana Padano, une émotion italienne. Pour votre santé, bougez plus.
Deuxième avis ?
Chut, tu fais quoi là ?
Je consulte les astres.
Ah bon ? En plein jour ?
Non, parce que le médecin vient de me dire de me faire opérer, mais bon, j'aimerais bien avoir un deuxième avis quand même.
Et du coup, ils disent quoi les astres ?
Bah d'attendre la nuit, il paraît qu'elle porte conseil.
Bon, ben, attendons.
Attendre des siècles pour obtenir un deuxième avis, c'est du passé. Avec Aesio Mutuel et deuxièmeavis.fr, obtenez un deuxième avis médical en moins de 7 jours. C'est ça, la mutuelle d'aujourd'hui. Informations et conditions en agence ou sur aesio.fr.
RTL dimanche soir avec Vincent Parisot.
À Tonneins, dans le Lot-et-Garonne, l'émotion est bien sûr immense après la mort d'une collégienne de 14 ans, Vanessa, dont le corps a été retrouvé dans une maison abandonnée sur les indications du meurtrier présumé. Cet homme de 31 ans, rapidement interpellé d'ailleurs dès vendredi soir grâce à la vidéosurveillance, est passé aux aveux, mais sa garde à vue a tout de même été prolongée. À Tonneins, sur les grilles du collège Germillac, là où était scolarisée Vanessa en classe de 4e, les habitants déposent des fleurs, des mots depuis hier. Ainsi, Elodie, elle est venue avec son fils Yann, bouquet à la main. Lui, il est élève en classe de 6e dans ce collège. Il ne connaissait pas personnellement Vanessa, mais bien sûr, il est très touché et aussi un peu apeuré par ce qui est arrivé.
Ça me tenait à cœur et déjà, je me sens pas bien pour la jeune fille. On en a parlé avec nos copains.
Et vous vous êtes dit quoi ?
On s'est dit qu'on voit une voiture qui nous arrête, un homme qu'on ne connaît pas, qu'on parle. On va directement à l'accueil ou à la CPE du collège. Avant, je voulais sortir tout seul pour aller rejoindre mes copains, pour rentrer chez moi tout seul, mais maintenant, je ne veux plus le faire.
Ils ont peur, ce qui est logique, c'est des enfants. Et on est censé être à l'école et être en sécurité. Quand on voit ce qui est arrivé à cette jeune fille, c'est pas possible de penser ça. Les enfants, ils sont... Je pense qu'ils sont très touchés. Il a une copine à lui qui la connaissait très bien. C'est elle qui lui a dit ce qui est arrivé. Et nous, il nous a réveillés samedi matin en nous disant « Maman, il y a une jeune fille qui a été enlevée et qui a été tuée au collège Germillac. » C'est un choc, c'est horrible.
Voilà, l'émotion donc devant le collège Germillac de Tonneins dans le Lot-et-Garonne. Des propos recueillis par Valentin Larquier. C'est maintenant l'heure du bilan pour la COP27 de Sharm el-Sheikh. Après plus de 2 semaines, ce qui en fait d'ailleurs l'une des COP les plus longues de l'histoire, elle s'est donc achevée à l'aube. Après avoir adopté difficilement, on en parlait d'ailleurs dès hier soir, un texte sur l'aide aux pays pauvres affectés déjà par le changement climatique, mais qui s'est achevé aussi sans nouvelles ambitions pour la baisse des émissions de gaz à effet de serre. Bonsoir Virginie Garin.
Bonsoir.
Alors les réactions du coup sont très mitigées après cette COP, entre déception et frustration, notamment pour les pays riches.
Oui, ce n'est pas avec cette COP qu'on va réussir à contenir le réchauffement du climat. De ce point de vue, c'est un échec, disait député un représentant européen ce matin. Il aurait fallu au contraire accélérer, s'engager à réduire la pollution encore plus. Les conséquences du réchauffement sont trop graves. Eh bien, l'accord de ce matin est mot pour mot exactement le même que celui d'il y a un an à la COP de Glasgow. Arnaud Gilles était en Égypte pour le WWF.
L'ambition climatique était insuffisante avant la COP, elle n'a pas bougé d'un pouce à la COP. Les États n'ont pas réussi à aller au-delà de ce qu'ils avaient adopté l'année dernière à Glasgow. Les énergies fossiles sont redevenues un tabou à la COP et il a été très difficile de parler du pétrole et du gaz.
Alors on entend bien la grande déception du représentant du WWF, Virginie Garin. En revanche, les pays du Sud, eux, sont plutôt satisfaits.
Oui, c'était une COP en Afrique avec une priorité pour l'Égypte qui l'organisait, obtenir pour les pays du Sud un nouveau fonds pour financer les catastrophes climatiques. Et bien pour une fois, ils ont eu gain de cause. Fanny Petitbon est porte-parole de Care France.
Les pays riches, notamment l'initiative de l'Union européenne, ont opéré un virage à 360 degrés. Ils ont mis fin à des décennies de blocage total, même si bien sûr les détails du fonds restent à définir. Cette décision démontre que l'appel des communautés vulnérables a enfin été entendu.
Alors voilà, qui va payer, qui en bénéficiera, tout reste à faire. Et d'ailleurs, Emmanuel Macron a annoncé cet après-midi qu'il voulait organiser un sommet dans 6 mois à Paris pour justement trouver des moyens innovants pour le financer. Exemple, quand un pays comme le Pakistan est victime d'inondations catastrophiques, on pourrait lui annuler une partie de sa dette. C'est l'une des pistes proposées par la France.
Voilà, donc Emmanuel Macron qui demande un sommet en 2023, notamment pour ce pacte financier destiné aux pays les plus vulnérables. Merci beaucoup d'avoir dressé le bilan de cette COP27 que vous avez suivi, évidemment, pour RTL, Virginie Garin. Le sport, outre l'ouverture de la Coupe du Monde de football, c'était aussi cet après-midi du rugby à Toulouse, avec le 3e et dernier test match de l'automne pour les Bleus, et la France a battu le Japon 35-17. On peut dire, Jean-Michel Rascol, que les joueurs de Fabien Galthié ont fait le job.
Tout à fait, Vincent. Damien Penaud égal à lui-même. 2 essais encore cet après-midi. 2 autres pour Anthony Jelon chez le capitaine Charles Olivon. Un match solide avec quelques absences où Mathieu Jalibert s'est illustré lorsqu'il a remplacé Romain Ntamack. Un homme au-dessus du lot, Julien Marchand, le talonneur toulousain, omniprésent dans le combat, désigné d'ailleurs homme du match.
Il y a plein de choses à revoir, mais on a quand même réussi à tenir, à pas lâcher jusqu'à la fin. Évidemment, tant qu'on gagne, on sera toujours heureux. Et voilà, tant qu'on prend du plaisir et qu'on passe de bons moments et qu'on en donne au public et aux gens, c'est l'essentiel pour nous.
Le 15 de France termine l'année invaincu et surfe sur une série de 13 succès consécutifs. Rendez-vous le 5 février prochain à Rome pour débuter le tournoi Destination 2023 avant un déplacement à Dublin pour défier les Irlandais, toujours numéro 1 mondial.
Voilà, en tout cas tout cela est de très bon augure avant la prochaine Coupe du Monde.
Si vous le dites, mais je crois que vous avez un peu raison.
Voilà, merci. Et puis en Formule 1, rideau sur la saison, le double champion du monde en titre Max Verstappen sur sa Red Bull a terminé en beauté avec une nouvelle victoire sur le circuit d'Abu Dhabi. Il a devancé Charles Leclerc sur Ferrari. Leclerc qui, du coup, termine 2e du classement final de cette saison de Formule 1. 1 160 000 spectateurs connectés en simultané sur la plateforme internet Twitch. C'était hier soir, c'est du streaming. Hein. Et si je vous donne ce chiffre, c'est tout simplement parce que c'est un record en France. Les internautes ont pu voir le 11 All-Star, c'est un match de foot opposant les stars de l'internet français à leurs homologues espagnols. 20 000 personnes étaient à Jambouin pour voir le match. Et pour la petite histoire, sachez que les youtubeurs bleus l'ont emporté 2-0 sur les Espagnols. Et puis on a appris la mort ce matin de Pascal Joseph, grande figure de l'audiovisuel français. Il s'est éteint à 68 ans des suites d'une maladie foudroyante. Il avait dirigé les antennes de plusieurs chaînes privées comme publiques, TF1, France 2, France 3, La 5. Il avait d'ailleurs été pressenti en 2015 pour diriger France Télévisions. L'actuelle patronne de France Télé a salué sa mémoire, la mémoire d'un seigneur de la télé publique qui en avait fait sa passion. Il est 18h27. Ce qu'on va faire, c'est marquer une courte pause et puis, dans un court instant, ouvrir le MacPoll sur RTL.
RTL dimanche soir.
Bonjour, c'est Jérôme Florin.
Bonjour, c'est Marina Giraudeau.
RTL Petit Matin.
Marina et moi, on est ravis de vous retrouver demain pour RTL Petit Matin.
Et oui, et RTL Petit Matin, c'est reparti avec toujours la même envie, celle de vous réveiller en douceur avec les premières infos du jour.
Grâce à vos rendez-vous économiques, politiques, culturels, bien-être, mais aussi avec de la musique pour se lever du bon pied.
Rendez-vous donc demain à partir de 4h30 pour RTL Petit Matin.
RTL Petit Matin. Pierre Arditi, il paraît que vous aimez les grands espaces.
Tout à fait. Et avec ma véranda Rénoval, je dispose enfin d'une pièce en plus.
Et quelle pièce ? Confortable, lumineuse.
Oui, bah c'est une Rénoval. Hein.
Offrez-vous une pièce en plus ? Contactez un expert agréé Rénoval. En ce moment, jusqu'à 3000 euros offerts. Conditions sur Rénoval.com.
Rénoval.
Véranda, extension, abri de piscine.
Bienvenue chez Dacia Service. Que diriez-vous d'une bonne séance de soins ? Pneus, batterie, freins, pas moins de 38 points de contrôle. De quoi bien traverser l'hiver. Et en plus, c'est offert.
Avec Dacia Service à prix Dacia, votre Dacia se sent comme à la maison. Profitez du bilan sécurité hiver avec 1 an d'assistance inclus. Réservé aux particuliers jusqu'au 31 décembre. Conditions et prise de rendez-vous sur Dacia.fr. Au quotidien, prenez les transports en commun. Salut Steph.
Salut.
Alors, ça s'est bien passé ton rendez-vous à l'hôpital ?
Très bien, ils m'ont renouvelé l'ordonnance.
Tu continues avec tes médicaments Mylan ?
Ouais, c'est juste que maintenant ça s'appelle Viatrice.
Ah, et ça te change beaucoup alors ?
Non, ça change rien, mais ça c'est bien.
Mylan devient Viatrice et nous sommes toujours présents dans la quasi-totalité des pharmacies et des hôpitaux pour continuer à vous donner accès à des médicaments de qualité. Viatrice, permettre à chacun de vivre en meilleure santé à chaque étape de sa vie.
on en parle.
Avec l'identité numérique La Poste et France Connect Plus, utilisez votre compte personnel de formation en toute sécurité. On en parle dans un instant avec Caroline.
RTL dimanche soir.
Le MacPol
avec Vincent Parisot.
Le MacPol, c'est le magazine politique de la rédaction d'RTL avec au menu de ce dimanche soir le bulletin du premier semestre d'Elisabeth Borne. Oui, 6 mois et 4 jours qu'elle est à Matignon, nomination qui avait suscité bien des doutes, y compris dans son propre camp. Alors comment a-t-elle fait taire les critiques? Quel bilan après 6 mois? Comment se présente la suite? On vous dira tout. Au programme également, le grand jury de François Braun, le ministre de la Santé, le débrief par ses intervieweurs, le gouvernement face à l'hypothèse de plus en plus plausible de coupure d'électricité, de délestage tournant pendant l'hiver. Et puis, l'invité du MacPol, l'ancien vice-président du MEDEF, Thibault Langsade. C'est lui qui prêche depuis des mois et même des années pour le dividende salarié que le gouvernement entend bien mettre en place. Il nous dira comment ça devrait fonctionner et surtout comment convaincre les syndicats réticents, les patrons frileux et l'Assemblée divisée.
Vincent Parisot,
le MacPol sur RTL.
6 mois et 4 jours précisément qu'Elisabeth Borne est à Matignon et c'est l'heure d'un premier bilan. Bonsoir William Galibert.
Bonsoir Vincent.
Souvenons-nous, hein, il y a 6 mois, donc en mai dernier, les critiques et les doutes que cette nomination suscitait.
Oui, beaucoup ne donnaient pas cher de sa peau et le pire, c'est que les mots les plus violents à l'époque venaient souvent de son propre camp. Souvenez-vous de François Bayrou.
Je l'ai dit 100 fois déjà. Je pense que les temps exigent que le Premier ministre ou la Première ministre soit politique, qu'on n'ait pas le sentiment que c'est la technique qui gouverne le pays.
Et quand François Bayrou lâche ça, Elisabeth Borne est déjà nommée à Matignon. Ouais. Et si aujourd'hui la majorité et l'Élysée vantent sa force de travail, son abnégation, il faut aussi rappeler que ce n'était pas le premier choix d'Emmanuel Macron. Trop rigide, trop techno, trop ceci, pas assez cela. Mais enfin, Elisabeth Borne a tenu. Elle savait qu'il allait falloir encaisser. On l'avait compris dès la passation de pouvoir avec Jean Castex.
Je voudrais dédier cette nomination à toutes les petites filles en leur disant « Allez au bout de vos rêves ». Et rien ne doit freiner le combat pour la place des femmes dans notre société.
Bon, là, Elisabeth Borne parlait aux petites filles, mais en fait, elle se parlait surtout à elle-même. À ce moment-là, elle se donnait du courage. Elle va d'ailleurs enfoncer le clou début juillet lors de son discours de politique générale à l'Assemblée.
Je ne correspond peut-être pas au portrait robot que certains attendaient. Cela tombe bien, la situation est inédite. Je n'ai pas le complexe de la femme providentielle.
En clair, vous ne vouliez pas de moi, mais il va quand même falloir vous habituer.
Alors, Elisabeth Borne, elle avait aussi dit qu'elle serait en permanence une femme de dialogue, notamment avec les oppositions. Alors, est-ce que ça a toujours été le cas?
Alors oui, Elisabeth Borne consulte à tout va. Oui, elle a passé ses 6 premiers mois à Matignon à négocier, mais enfin, il y a quand même une sacrée ombre au tableau.
Nous avons besoin d'un budget de la sécurité sociale. Aussi, sur le fondement de l'article 49, alinéa 3 de la Constitution, j'engage la responsabilité de mon gouvernement sur
et
la quatrième partie.
49.3, elle l'a dégainé 4 fois sur les textes budgétaires et même en reprenant certains amendements de l'opposition. Ça relativise quand même beaucoup cette posture de dialogue. C'est aussi le ressenti du député centriste Christophe Naegelen, souvent dragué par la majorité, mais pas encore tout à fait amadoué par la patronne de Matignon.
C'est un anniversaire qui se fait dans la douleur, parce qu'on voit bien que sur les textes, c'est un peu compliqué, un certain nombre de 49.3. On espérait qu'elle soit ouverte, c'est ce qu'elle a été. Hein, il faut rendre à César ce qui appartient à César. Elle nous reçoit beaucoup plus que ce qu'on pouvait être reçu dans la précédente législature.
Voilà, elle nous reçoit maintenant.
C'est déjà ça.
C'est déjà ça, voilà.
Mais pas toujours suffisant.
La suite, je veux dire les 6 prochains mois.
Alors vous êtes bien accrochés. Ouais. Inflation galopante, probable coupure d'électricité en France, on va en reparler. Mmh. Durcissement des règles de l'assurance chômage, réforme des retraites. On va pas s'ennuyer. Elle ne va pas s'ennuyer non plus. Mais est-ce que vous connaissez la passion d'Elisabeth Borne?
Non.
Moi j'adore marcher dans le désert.
Et quand on aime marcher dans le désert, c'est qu'on est fait pour ce job.
Exactement, formidable, merci, vous revenez tout à l'heure parce qu'on va parler justement d'un des soucis qui attend la Première Ministre, à savoir, c'est probable maintenant, coupure d'électricité pendant l'hiver. Merci William, parce que ça aura des conséquences politiques évidemment. En attendant, retour sur le grand jury de François Braun, le ministre de la Santé. C'était à la mi-journée sur RTL. Il a bien sûr été interrogé sur la crise de l'hôpital.
L'enjeu, il est de redonner sa vitalité à notre hôpital. D'abord, eh bien, redonner du sens, c'est leur donner des meilleures conditions de travail. Ces meilleures conditions de travail, elles passent par le salaire, 12 milliards d'euros quand même. Et vous rajoutez à ça 19 milliards d'euros pour rénover l'hôpital. Parce que les soignants doivent travailler dans de bonnes conditions. Ils doivent avoir du matériel, doivent avoir des bons locaux.
Qu'est-ce que vous pensez de l'idée du maire de Nevers qui a mis en place un pont aérien entre Dijon et Nevers pour faire venir quotidiennement des médecins dans son hôpital ? Vous dites aujourd'hui on manque de bras. Une des questions qui se pose, c'est la question de l'intérim.
Vous savez que c'est un système que je dénonce. Je ne dénonce pas l'intérim en tant que tel. Je dénonce les dérives de l'intérim. Quand un médecin, pour 24 heures de travail, gagne deux fois ce que gagne une infirmière en un mois, je considère que c'est inadmissible.
Voilà, François Braun. Et puis parmi les dossiers de l'actualité du ministre de la Santé, la fin de vie, à quelques jours de la convention citoyenne sur ce thème pour lequel, on le rappelle, Emmanuel Macron s'était avancé pendant la campagne.
Premier point, c'est de travailler sur le renforcement de ce que l'on appelle les soins palliatifs. Ma deuxième responsabilité, c'est que la parole des soignants soit entendue. Je suis dans l'action, je ne suis pas dans les promesses, je suis dans les choses à mettre en application. Ce débat permet justement de faire le point sur les soins palliatifs et sur leur développement, sur ces équipes mobiles, sur ces services de soins palliatifs, voir exactement où on en est. Je mettrai les moyens pour combler les trous dans la raquette, si je peux m'exprimer ainsi.
Est-ce que vous avez une intime conviction ?
La position du ministre de la Santé importe peu. J'ai une position personnelle, mais que vous permettrez de garder pour moi.
Voilà donc pour l'essentiel de ce grand jury du ministre de la Santé, François Braun. Et on y revient avec ses intervieweurs. Olivier Bost, évidemment, pour RTL. Bonsoir, Olivier.
Bonsoir.
Avec nous également Marie-Pierre Haddad pour RTL.fr. Et puis, pour Le Figaro, Marion Mourgue, bonsoir.
Bonsoir.
Et Amélie Carouer pour TF1 NCI, bonsoir.
Bonsoir.
Pour faire face à la crise de l'hôpital, à la crise des urgences, à la crise de la pédiatrie, est-ce que François Braun vous a convaincu lors de ce grand jury, Olivier ?
Il est, en fait, on a le ministre médecin urgentiste, c'est-à-dire que il est calme, quelle que soit la situation. Il est comme le médecin urgentiste qu'il était, c'est-à-dire qu'il y a 25 catastrophes à peu près à gérer au minimum dans son secteur, et il est toujours très 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 rassurant, que ce soit pour l'hôpital, que ce soit pour les déserts médicaux. Ça va mal, mais vous inquiétez pas, le système est solide et on va s'en sortir. C'est le principal message qu'il a fait passer dans ce grand jury.
Donc en gros, il dit le système est bon et il faut le reconstruire avec les moyens dont on dispose. C'est un petit peu l'essentiel de ce qu'il a dit.
Mais il y a un petit paradoxe quand même, c'est que même au-delà de rassurant, il se veut optimiste. Arrêtons de taper sur le système. Il appelle de plein de manières, en gros, les soignants à relativiser la situation. Même, on n'a pas posé la question face caméra, mais quand on l'interroge plus tard sur la question des spécialistes, bon, il dit, bon, attendez, on peut mettre en place des visios, consultations, etc. Il y a des solutions. Mais en même temps, c'est l'homme qui, il y a quelques jours encore une fois, a eu cette déclaration de dire que le système de santé peut tenir, mais en gros, il faut mettre le paquet. Ce qui n'est quand même pas ultra rassurant dans le fond. C'est-à-dire qu'il y a quand même une petite marge qui fait que si on ne fait pas ce qu'il faut dans les temps et massivement, bah, ce système pourrait se faire mal.
Non, mais quand il dit qu'il faut mettre le paquet, est-ce qu'il en a dit un peu plus sur le paquet qu'il faudrait mettre, justement?
C'est ça, il prône une action volontariste, mais on ne sait pas exactement quels seront les moyens supplémentaires qu'il obtiendra, notamment les moyens financiers. Ensuite, il dit les choses s'améliorent et vont continuer de s'améliorer, mais ce que constatent les Français, c'est que quand même, ils continuent d'attendre aux urgences, ils continuent d'attendre un médecin généraliste, ils continuent d'attendre un rendez-vous de spécialiste, et ça, quand on lui repose la question plusieurs fois, il l'évacue un peu en disant « non, non, ça s'améliore ». Encore une fois, ce n'est pas ce que constatent les Français pour l'instant.
Sur la fin de vie qui attend le gouvernement, puisqu'il va y avoir une grande concertation sur le sujet, il n'a pas vraiment voulu s'engager non plus.
Il est quand même, on comprend à travers ce qu'il dit, qu'il est quand même très réticent à la direction qui avait été donnée pendant la campagne présidentielle par Emmanuel Macron sur ce sujet, à savoir quelque chose qui pourrait nous rapprocher
de la Belgique.
De la Belgique, exactement, avec une euthanasie active. Depuis, le président de la République est beaucoup plus prudent. Et là, le médecin Braun et le ministre Braun se montrent extrêmement réticents.
Oui, mais on le comprend en creux. En fait, on comprend en creux qu'il est pour la loi actuelle, la loi Claeys-Leonetti, avec le développement des soins palliatifs, puisqu'il dit qu'il en manque dans 20 départements. Et c'est vrai que c'est un peu le trou dans la raquette aujourd'hui, et qu'il n'est pas forcément pour un nouveau texte législatif.
Merci à vous quatre. Marie-Pierre, vous revenez dans quelques minutes avec votre agenda. Courte pause et dans un instant, la menace des coupures d'électricité pour le gouvernement. Et puis le projet de dividendes salariés pour doper le pouvoir d'achat, contrer l'inflation, invité du MacPol. Dans quelques instants, celui qui porte depuis des années ce projet, Thibault Langsade, l'ancien vice-président du MEDEF. A tout de suite.
Le MacPol, Vincent Parisot.
on en parle.
L'identité numérique La Poste vous permet d'utiliser votre compte personnel de formation en toute sécurité. On en parle avec Caroline, bonjour.
Bonjour.
C'est dans le cadre d'une reconversion professionnelle que vous avez utilisé votre compte personnel de formation, c'est bien ça?
Exactement. En me connectant via France Connect Plus, grâce à mon identité numérique La Poste, j'ai pu accéder à mon compte formation de manière simple et rapide.
Expliquez-nous.
En quelques clics sur mon smartphone, j'ai créé mon identité numérique La Poste et aussitôt j'ai déclenché le financement de ma formation. Et en plus, le tout est hyper sécurisé. C'est rassurant.
Merci Caroline.
Pour créer votre identité numérique La Poste, comme plus d'un million de personnes, rendez-vous sur identitenumérique.laposte.fr ou dans le bureau de poste le plus proche de chez vous. L'identité numérique La Poste, la clé qui sécurise et simplifie vos démarches en ligne.
Tu sais, pour ta retraite, tu devrais utiliser Mon Agenda Retraite.
Ah, je connais pas.
C'est un service gratuit de l'assurance retraite, la retraite de base des salariés et des indépendants. Tu reçois des infos personnalisées des 5 ans avant ton départ.
Et je fais comment?
Tu vas sur l'assurance-retraite.fr, il y a plein de services pour t'aider dans tes démarches.
Ceci est un message de l'assurance retraite, le service public de la retraite.
La légende Michel Polnareff revient avec un album événement. L'artiste revisite ses plus grands succès dans des versions piano-voix inédites. Polnareff, chante Polnareff, l'album déjà indispensable.
Julien Courbet.
On refait la Coupe du Monde sur RTL.
Ça y est, la Coupe du Monde de foot a débuté et j'ai le plaisir de la vivre avec vous. Rendez-vous demain pour On refait la Coupe du Monde dès 20h sur RTL.
RTL dimanche soir.
Le MacPol
avec Vincent Parisot.
Y aura-t-il de l'électricité à Noël? Alors la question fait un peu dans la provocation, c'est vrai, parce que la crainte du blackout n'est pas à l'ordre du jour, pas du tout. En revanche, selon RTE, il y a bien un risque élevé de tension sur le réseau français en janvier prochain. Des délestages tournants sont d'ores et déjà envisagés, avec ce que ça pourrait avoir comme conséquence politique pour l'exécutif, William Gilbert.
Oui, Vincent, faisons un petit jeu, jeu pas très marrant. D'ailleurs, imaginons le début 2023, réforme des retraites à l'Assemblée avec allongement de la durée de travail, règles de l'assurance chômage durcies, inflation sûrement toujours plus importante, des prix de l'électricité qui vont augmenter de 15% au mois de janvier. Et là-dessus, vous ajouteriez de possible, probable, coupure de courant, même des petites coupures, même des coupures localisées. Bon courage. Donc ça, c'est vraiment le scénario noir pour la majorité. D'ailleurs, les oppositions commencent à s'en donner à cœur joie depuis les alertes de RTE, notamment en imaginant cet hiver à la bougie, en dénonçant ce président incapable de garantir l'électricité aux Français. Et c'est vrai que pour l'instant, le gouvernement est un peu à court de solutions, à la fois pour éviter la saturation du réseau, et à la fois pour éviter la saturation des Français.
Mais avec sans doute des conséquences en termes de popularité de l'exécutif. À ce moment-là, on aura l'occasion d'en reparler. Merci beaucoup, William Galibert. Autre dossier dans ce MacPol, le projet de dividendes salariés. Ça aussi, peut-être que ça redonnera un petit peu le sourire sur la question du pouvoir d'achat. On va voir, on va en parler dans un instant. Écoutez Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement. C'était jeudi dernier sur France 2.
Ce que nous allons faire, surtout, c'est booster ce qu'on appelle les dividendes salariés. C'est-à-dire qu'on dit, si une entreprise a dégagé du bénéfice parce qu'elle fonctionne bien, tant mieux. Si elle verse des dividendes aux actionnaires, il faut qu'elle en verse aux salariés. Il y a beaucoup d'entreprises qui le font déjà, d'autres ne le font pas, et on fera, par la loi, passer une disposition qui contraindra les entreprises qui versent des dividendes aux actionnaires à en verser aux salariés, de manière obligatoire.
Voilà, Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement, jeudi sur France 2. Bonsoir Thibault Langsade.
Bonsoir.
Ancien vice-président du MEDEF, vous avez dû apprécier cette annonce d'Olivier Véran d'une loi d'ici la fin du quinquennat, parce que ce dividende salarié, c'est un peu votre bébé, vous en êtes le théoricien, on peut dire ça. On va parler du mécanisme. C'est vous qui avez, on peut dire, murmuré à l'oreille d'Emmanuel Macron la voie à prendre pour améliorer le pouvoir d'achat des Français, ce qui est aujourd'hui leur préoccupation numéro un.
Je pense que si on veut parler d'un capitalisme rénové, où les chefs d'entreprise ont davantage de responsabilités sur l'impact environnemental, social, sociétal, il y a un sujet qu'il faut qu'on traite, qui est le partage de la valeur. Et je pense que le président de la République a été sensible à ce point-là.
Vous dites que ça représentera un 13e mois pour ceux qui n'en ont pas, j'imagine, ou un 14e pour ceux qui ont un 13e, ça devrait concerner combien de salariés?
Aujourd'hui, le montant de la participation qui est versée est à peu près de 1500 euros. Alors ça dépend selon les années, mais surtout, il y a à peu près 50% des salariés qui ne le touchent pas. Donc ce sont essentiellement les salariés des grandes entreprises qui ont des mécanismes d'intéressement et de participation. Et il faut irriguer maintenant l'ensemble des salariés.
Donc vous parlez d'une participation élargi. Donc c'est un peu faire du neuf avec du vieux si on remplace la participation par le dividende salarié. C'est un peu un tour de passe-passe, non ?
Non, je pense qu'il faut renforcer la participation. Aujourd'hui, dans la loi, pour ceux qui nous écoutent, le dividende travail existe. Ce sont les instruments d'intéressement et de participation. À partir du moment où il y a la prime partage de la valeur, qui est actuellement distribuée pour les entreprises, je pense que réconcilier les Français avec cette notion de dividende en l'appelant dividende salarié est une chose utile. Mais oui, il faut partir des mécanismes qui sont déjà existants. Ça ne sert à rien de réinventer une usine à gaz. La participation a été, on va dire, mise en place par le général de Gaulle. Mmh. 50 ans après, je crois qu'on peut regarder si on peut améliorer, simplifier et renforcer, on va dire, l'attractivité de ce dispositif.
Donc une super participation pour toutes les entreprises ou simplement celles de moins de 50 salariés?
Je pense qu'il faut que ce soit toutes les entreprises. Je crois que le premier point, c'est qu'une entreprise qui verse des dividendes doit verser, on va dire, de la participation. Et aujourd'hui, ce n'est pas tout à fait le cas, également pour les grandes entreprises. Pour les petites entreprises, pour les TPE, PME, il faut laisser le dispositif prime partage de la valeur, qui est un dispositif unilatéral. Quand on est une petite entreprise, eh bien, il faut que ce soit à la main du chef d'entreprise. Mais pour toutes les PME, il faut un dispositif de participation pour rendre, on va dire, le partage de la valeur plus égalitaire, plus attractif pour les salariés. C'est un outil de motivation, de fidélisation, de recrutement qui est absolument essentiel aujourd'hui.
Ce ne sera pas un salaire. Il y aura des cotisations, des charges sociales, parce qu'il faut quand même financer notre système.
Bien sûr, mais aujourd'hui, pour les entreprises de moins de 50 salariés, il n'y a pas, on va dire, de taxation. En revanche, pour les entreprises de plus de 50, il y a un forfait social qui s'applique à 20%. Je pense qu'il faut regarder de près ce dispositif, mais on va avoir une situation paradoxale en 2023. Vous allez avoir des résultats records au titre de l'année 2022, boostés par ce qui se passe en ce moment, et puis des perspectives de salaire qui vont être amoindries compte tenu des perspectives économiques qui arrivent, qui sont moins favorables.
Évidemment,
et donc, il faut maintenant travailler sur le partage de la valeur.
Vous avez rencontré les dirigeants politiques à l'Assemblée, en tout cas celle d'aujourd'hui. Il y a une majorité, d'après vous, pour voter ce dispositif?
Il y a une majorité. En tout cas, on voit que les partis politiques de Horizon, OLR, Valérie Pécresse, Xavier Bertrand, Arnaud Montebourg ont été exprimés pendant la campagne sur le dividende salarié. Je vois que tous les partis politiques sont en train de travailler. Maintenant, il faut laisser aux partenaires sociaux le soin de terminer.
Oui, parce que les syndicats, ils n'ont pas l'air très chauds. Ils vous disent non, du salaire plutôt que...
Alors, les syndicats disent du salaire, les organisations patronales vont dire il ne faut pas que ce soit contraignant, mais il y a une négociation qui a été lancée par le ministre Olivier Dussopt, et dont les résultats sera probablement fin janvier.
Bon, vous ne craignez pas que cette annonce, qui n'est pas concrétisée, même si Olivier Véran a dit que ce serait d'ici la fin du quinquennat, soit aussi un peu de la bonne communication en ce moment où la question du pouvoir d'achat est sensible? On va dire une promesse qui finalement n'engage pas tellement.
Ce serait très dommageable si c'était un effet de communication, parce que les Français attendent un meilleur partage, une meilleure équité sur les revenus, et je pense qu'il y a une attente qui est extrêmement forte, donc il en sortira forcément quelque chose.
Donc vous voulez des actes après la concertation, vous voulez que ça aille, que ça prenne corps rapidement?
Dans l'ordre des choses, il faut laisser aux partenaires sociaux le soin de négocier, sinon ça ne sert à rien d'avoir une négociation, donc ça reviendra après le mois de janvier, une fois que les organisations auront négocié.
Eh bien, on vous réinvitera à ce moment-là pour en parler. Merci Thibault Langsad, ancien vice-président du MEDEF. Et puis on termine ce MacPol avec vous, Marie-Pierre Haddad. Dites-moi, qu'y a-t-il dans votre agenda politique? On commence avec le temps fort de la semaine.
Oui, c'est demain soir, c'est le débat entre les trois candidats à la présidence des Républicains. C'est à partir de 19h50 sur LCI. Et ce sera en fait le seul débat organisé avant l'élection, le 3 décembre. La campagne, il faut le reconnaître, a un ton très discret. Aucun des trois candidats, que ce soit Éric Ciotti, Bruno Retailleau ou Aurélien Pradier, n'a vraiment réussi à marquer les esprits.
Ah oui, pas même dans leur propre camp.
Et non, un député, Les Républicains, me confiait justement cette semaine que lui-même n'avait pas trop envie de se mêler de la campagne et de s'aventurer là-dedans. En tout cas, les trois candidats ont un point commun. Ils refusent que le parti devienne un satellite de la Macronie. Donc il ne reste maintenant plus qu'à découvrir leurs différences.
Bon, et puis ensuite, rendez-vous jeudi à l'Assemblée.
Oui, les députés vont plancher sur trois propositions de loi très symboliques sur le plan politique. Numéro 1, le SMIC à 1 600 €, c'est l'une des propositions phares de la France insoumise. Numéro 2, c'est sur l'inscription de l'IVG dans la Constitution. La majorité et la France insoumise, justement, devraient la voter, mais pas le Rassemblement national. Et numéro 3, l'abolition de la corrida. On en a parlé. parlé la semaine dernière justement dans cette émission. Le gouvernement est contre, la majorité est divisée sur la question et le Rassemblement national prône la liberté de vote. Donc difficile pour l'instant de s'aventurer sur le terrain des pronostics.
Eh bien, nous verrons cela le moment venu, c'est-à-dire jeudi à l'Assemblée nationale. Merci beaucoup Marie-Pierre Haddad. Je remercie encore Thibault Langsat d'être venu en direct dans ce MacPoll qui se termine ainsi. Prochain numéro la semaine prochaine. On marque une courte pause et dans un instant, Alain Bougrain-Dubourg refait la planète.
Sephora, j'aimerais que tu te sentes belle. J'aimerais que tu te sentes belle partout où tu vas. Que tu révèles ta personnalité. Que tu oses plus. Pendant le Black Friday, tous vos vœux seront exaucés. Jusqu'au 28 novembre chez Sephora, il y a moins 25% sur les soins et le soin capillaire. Moins 25% pour vous faire plaisir sur Sephora.fr ou en magasin. Voir conditions sur Sephora.fr. Sephora, the unlimited power of beauty. Le pouvoir infini de la beauté.
Bienvenue chez Dacia Service. Que diriez-vous d'une bonne séance de soins? Pneus, batteries, freins, pas moins de 38 points de contrôle. De quoi bien traverser l'hiver. Et en plus, c'est offert.
Avec Dacia Service à prix Dacia, votre Dacia se sent comme à la maison. Profitez du bilan sécurité hiver avec un an d'assistance inclus. Réservé aux particuliers jusqu'au 31 décembre. Conditions et prise de rendez-vous sur Dacia.fr. Pensez à covoiturer.
BNP Paribas présente Mon Business Assistant, la solution qui donne un coup d'avance aux professionnels avec un service de gestion financière doté d'une intelligence artificielle pour les aider à gérer leur activité. Avec prévision de trésorerie, personnalisation et envoi automatique des factures. BNP Paribas, la banque d'un monde qui change. Voir conditions et tarifs sur mabanquepro.bnpparibas.
Découvrez le dictionnaire de Laurent Baffy, l'intégrale. Le dictionnaire de Laurent Baffy, l'intégrale, c'est plus de 1000 définitions cultes, drôles, poétiques et impertinentes. Le dictionnaire de Laurent Baffy, l'intégrale, le livre à offrir sans modération aux éditions Kairo.
Ma première cigarette, je devais avoir 15-16 ans. Max avait piqué les cigarettes à son père et on s'était retrouvés à l'abribus avec d'autres copains. Et puis d'une clope à l'autre, je suis devenu un sacré fumeur. Un paquet par jour. Mais depuis 3 semaines, pas une cigarette. Rien. Et je suis pas peu fier.
Vous n'étiez pas seul quand vous avez commencé. Vous ne serez pas seul pour arrêter. 3 semaines déjà que Moi sans tabac a commencé. Pour échanger avec les milliers de participants, rejoignez la communauté de votre région sur nos réseaux sociaux. Ceci est un message du ministère chargé de la Santé, de l'Assurance maladie et de Santé publique France.
RTL.
On refait la planète sur RTL avec la Fondation Engie. Fondation Engie, agir pour demain, agir pour la citoyenneté. RTL.
On refait la planète.
On refait la planète.
Avec Alain Bougrain-Dubourg et Vincent Parisot.
On refait la planète, c'est tous les dimanches soirs sur RTL et c'est avec Alain Bougrain-Dubourg. Bonsoir Alain.
Bonsoir Vincent.
Et j'en profite pour saluer nos auditeurs et les remercier de leur fidélité et de leur présence. On a vu ça,
oui, ça
dans
monte,
les
hein.
chiffres d'audience. Merci d'être de plus en plus nombreux avec nous. Alors Alain, on commence chaque dimanche d'émission avec un son mystérieux de la nature à découvrir. Vous nous donnez un indice.
Il incarne le réchauffement climatique, c'est de circonstance en ce moment.
Alors il incarne, hein, parce que oui. La tendance, ça serait de vous répondre l'homme, hein, mais oui. C'est pas il en est responsable, non. À la limite il en est victime, et voilà. Il l'incarne, on l'écoute.
Il n'est pas content.
Non, il n'a pas l'air très content de la situation dans laquelle il se trouve aujourd'hui, et on en parlera à la fin de l'émission.
On refait la planète sur RTL.
Alors Alain, on parle ce soir des espaces naturels sensibles, parce que les départements de France se présentent comme les gardiens de la nature, et ils rappellent que depuis 1985, ce sont eux qui assument la responsabilité de ces ENS. Alors de quoi s'agit-il ?
Bon, on peut dire en résumé que ce sont des espaces qui présentent évidemment un grand intérêt biologique ou bien paysager et qui doivent faire l'objet de mesures de protection. Mais plus globalement, François Sauvadet, qui est président de l'Assemblée des départements de France, estime que la biodiversité est une priorité.
Nous sommes très impliqués, j'allais même dire en première ligne, avec les associations, avec tous les acteurs. Par exemple, nos laboratoires départementaux sont chargés d'un suivi de la qualité des eaux potables, des eaux de rivière. Et puis, nous gérons 385 000 km de route départementale. Aujourd'hui, nous avons des ponts qui sont adaptés pour respecter la biodiversité, avoir des nichoirs. Je pense par exemple dans un pont que j'ai refait moi-même dans mon département de Côte d'Or pour préserver la présence du petit rhinolof.
Le petit rhinolof, vous nous en dites deux mots quand même, Alain.
Ah bah c'est une petite chauve-souris qui pèse moins d'une dizaine de grammes. Bon, elle est grande consommatrice de moustiques.
Ah,
donc, oui, c'est intéressant. Et puis les papillons de mie, bien sûr. Ouais. Et elle souffre de la modification de son habitat et également de la réduction de ses territoires de chasse. Ouais.
On aurait pu parler aussi, Alain, de ces ponts qui sont construits pour les crapauds, par exemple.
Oui, les crapauducs. Ouais. Oui, les départements s'investissent pour favoriser le passage lors de la période de reproduction de ces batraciens.
Alors justement, les départements, on y revient sur le plan environnemental. Les régions, apparemment, sont plus référentes que les départements. Est-ce qu'il y a une forme de frustration? On écoute François Sauvadet.
Non, on n'est pas frustré, mais je pense qu'on se trompe de cible. L'échelon régional est souvent pris pour comme échelon de réflexion. Mais maintenant, avec les grandes régions, il ne correspond pas vraiment aux situations écologiques, aux situations naturelles. Je pense que le département, notamment pour la protection de la biodiversité, est le bon échelon pour agir.
Voilà, le département, c'est le bon échelon pour agir. Cela dit, Alain, c'est vrai qu'on parle beaucoup plus tôt de la lutte contre le réchauffement.
Oui, que de la biodiversité.
J'ai douté de l'évolution du climat et du réchauffement climatique. En même temps, les deux sont liés, naturellement. J'ai un conseil, travailler encore plus avec les départements. Vous verrez, ça marche.
Voilà, le bon conseil de François Sauvadet, qui justement est le président de l'Assemblée des départements. Alain, vous êtes chasseur des idées reçues,
oui,
hein, évidemment.
Il ne faut pas se tromper.
Non, et l'idée reçue aujourd'hui, c'est que les circuits courts, ça coûte plus cher pour l'alimentation que les grandes surfaces. C'est vrai ou c'est faux?
Ben, je suis embêté parce que c'est à la fois vrai et faux. Tout dépend des produits dont on parle et surtout de leur qualité. Mmh. Alors, il y a un exemple qui a été testé en Bretagne. Un panier de légumes bio comptant 5 produits frais est évalué à environ 11,50 € à la ferme.
Oui.
Le même panier en grande surface, il passe à 14,60 €.
Donc c'est plus intéressant.
Oui, à la ferme. Mais s'il s'agit de produits conventionnels, le prix en supermarché se situe autour de 9 €.
Donc pour le non-bio,
voilà,
ça serait moins
meilleur
intéressant.
Marché, évidemment. Ouais. Ouais. Alors en principe, le circuit court réduit le coût, évidemment, du transport, de l'emballage ou de la promotion, mais les aliments coûtent souvent plus cher à produire. En conclusion, tout dépend des circonstances. Il est quand même recommandé d'aider les petits producteurs de proximité pour qu'ils puissent vivre de leur travail.
On refait la planète sur RTL.
Alain, chaque semaine, un événement à ne pas manquer, selon vous. Aujourd'hui, il s'agit de quoi?
Je vous recommande de faire escale à l'UNESCO à Paris à l'occasion d'un grand rassemblement en faveur de la planète. L'Université de la Terre et le Parlement des entrepreneurs d'avenir s'associent pour initier 58 débats avec 245 intervenants sur le thème « La vie à l'heure des grandes transitions ». On attend près de 10 000 participants et cela se déroulera les 25 et 26 novembre.
On refait la planète sur RTL.
Allez, pour conclure Alain, on retrouve notre son mystérieux de la nature du début de l'émission. Alors, vous nous aviez donné un indice, il incarne le réchauffement climatique.
Eh bien, c'est évidemment l'ours polaire.
Oui, on s'en doutait un peu.
Voilà, qui est présent en Arctique, quelques 450 kilos sur la balance.
Ah ouais,
cela
bête,
dit,
hein.
Il maigrit.
Ah ouais.
Parce que son territoire se réduit à cause du réchauffement, ce qu'il pénalise. Et bon, mais il reste actuellement quelques 20 à 25 000 survivants. C'est bien triste la situation de l'ours polaire.
Clairement, il est menacé. C'est de disparition de la planète.
On peut penser cela, il n'aura plus son milieu naturel favorable, alors on le gardera toujours dans des parcs, mais à l'état sauvage, ça pose problème.
Alain Bougrain-Dubourg, merci d'avoir encore une fois, ce dimanche soir, refait la planète. À la semaine prochaine.
On refait la planète sur RTL.
Il est 18h57, une courte pause. Dans un instant, le journal avec Martin Choc. On va d'ailleurs retourner au Qatar avec ce match d'ouverture. Les Qataris sont toujours menés 2-0 par l'Équateur. À tout de suite.
RTL dimanche soir.
Brutos, t'as souscrit un contrat prévoyance?
Pas besoin. Brutos, plus grand gladiateur du monde.
Oui, mais là, c'est quand même un tigre.
Brutos, plus fort. Viens, Minou. Viens.
En Brutos, méchant Minou.
Ne pas anticiper l'avenir, c'est du passé. Avec les offres prévoyance d'Aesio Mutuel, mettez vos proches à l'abri en cas d'accident de la vie, d'invalidité ou de décès et bénéficiez d'une assistance renforcée. C'est ça, la mutuelle d'aujourd'hui. Informations et conditions en agence ou sur aesio.fr.
BMW. Dis donc, ton beau-frère, tu l'as cloué ce midi.
Il croit toujours qu'il a les meilleurs plans. Mais là, sur l'entretien de ma BMW, il est resté sans voix. Chez BMW Service, je bénéficie de l'expertise des techniciens, de la qualité des pièces d'origine et de 30% de remise minimum sur des opérations d'entretien si ma BMW a plus de 6 ans.
Ça, c'est un bon plan.
Et jusqu'au 15 décembre, profitez de 50 euros de remise pour les 1000 premiers rendez-vous en ligne. Voir réseau participants et détails sur bmw.fr. BMW Service. Votre BMW est entre de bonnes mains.
Moi, dès que je suis chez moi, je fais des économies d'énergie. Comment ? Facile, je règle mon chauffage à 19 degrés maximum.
Pour économiser l'énergie, on agit, on réduit. Je baisse, j'éteins, je décale. Chaque geste compte. Ceci est un message du gouvernement.
Business Affaires.
Dans le contexte actuel, EDF propose des solutions de réduction de consommation d'énergie. On se retrouve dans un instant avec Anthony Pasquier, responsable commercial EDF.
J'ai toujours aimé cuisiner, ça me détend. J'ai toujours dit que mes meilleures décisions dans ma vie, je les prenais où, en repassant ou en cuisinant.
C'est vrai. Il est vraiment une bonne ménagère.
Ah oui, bah oui.
Bah, il est maître que.
Les grosses têtes, chaque jour à 15h30 sur RTL.
RTL, rire ensemble. RTL.
19h.
h 19h15, RTL dimanche soir.
Avec Vincent Parisot.
Et pour le journal, on accueille Martin Choc. Bonsoir Martin.
Bonsoir Vincent, bonsoir à tous.
C'est donc parti pour la 22e Coupe du Monde de football.
Avec le match d'ouverture entre le Qatar et l'Équateur qui se termine à l'instant. Et c'est l'Équateur qui l'emporte, Hugo Hamelin.
L'intensité d'un match de cricket, l'ambiance d'une compétition de natation. Voilà comment se termine ce premier match du Mondial 2022 au Qatar. D'ailleurs, le stade s'est vidé dans le dernier quart d'heure, n'est plus rempli qu'à la moitié désormais. 2-0 pour l'Équateur qui s'est même permis de lever le pied très largement en seconde période face à une équipe assez faible du Qatar.
L'intensité d'un match de cricket, l'ambiance d'une compétition de natation. Eh bien, on retiendra ça, Hugo Hamelin, envoyé spécial d'RTL à Doha. On vous retrouve dans un instant.
La Coupe du Monde de foot, vous y revenez évidemment juste après le journal Isabelle Langer à 19h15. On refait le sport avec le Parisien aujourd'hui en France.
Oui, tous nos envoyés spéciaux seront avec nous à Doha. On n'oubliera pas le rugby, 13e victoire de rang pour le 15 de France. L'ancien international Olivier Magne sera en ligne avec nous, tout comme le président de la Fédération française de handball, Philippe Bana, l'équipe de France féminine, qui tente d'accrocher la médaille de bronze face au Monténégro. Pour le moment, c'est mal parti.
Isabelle Langer, donc, on retrouve dans 10 grosses minutes, et puis ensuite, à partir de 20h, votre rendez-vous quotidien pendant ce mondial. On refait la Coupe du Monde avec Christophe Paco, Xavier Domergue et Johan Rioux, notamment. Dans l'actualité également, Martin Choc.
Le meurtre d'une adolescente de 14 ans dans le Lot-et-Garonne, le suspect a reconnu avoir violé la jeune fille d'après une information du journal Sud-Ouest confirmée par l'agence France-Presse. Et puis aux États-Unis, une fusillade la nuit dernière dans un bar gay du Colorado. Au moins 5 personnes sont mortes et une vingtaine de blessés. Nous ne devons pas tolérer la haine, réagit Joe Biden.
Vincent Parisot.
RTL dimanche soir.
Martin Choc, on repart tout de suite au stade Al-Bayt de Doha.
Où le Qatar s'est incliné en match d'ouverture contre l'Équateur. Hugo Hamelin, quel bilan dressez-vous de cette première journée du Mondial ?
Alors, il y a des points positifs, il y a des points plus compliqués, beaucoup de dysfonctionnements en fait. Un côté transport, notamment l'application des taxis nationaux du Qatar était saturée dès ce matin. La zone du stade a été inaccessible pour des bus, pour des taxis pendant très longtemps. Aucune nourriture en tribune, donc pour les supporters qui sont arrivés très tôt, on nous avait demandé d'arriver très tôt, on est à une heure de Doha en plein désert, c'est compliqué d'attendre 6 heures sans rien manger forcément. En fait, entre la sécurité, la FIFA, les supporters, les journalistes, on avait l'impression que tout le monde entrait pour la première fois dans ce stade, découvrait ce stade. Personne n'avait les infos et donc ça a été assez compliqué. Le point positif, c'est le stade qui était magnifique. C'est une tente bédouine de 60 000 places, mais avec la climatisation qui a fonctionné pendant 6 heures consécutives.
Hugo Hamelin avec les moyens techniques de Mathias Julien, envoyé spéciaux de RTL à Doha.
Et puis alors, du côté de l'équipe de France, évidemment, on se remet comme on peut du forfait de Karim Benzema.
L'attaquant des Bleus qui ne sera pas remplacé, prévient Didier Deschamps. Le ballon d'or en titre ne soulèvera donc pas la Coupe du Monde. À Bron, dans la banlieue de Lyon, ville d'origine de Benzema, on est particulièrement groggy aujourd'hui, Bertrand Frachon.
Au bord du terrain de foot de Bron-Terraillon, là où Benzema a débuté, ce matin, tout le monde est sous le choc de ce forfait, à commencer par Frédéric Rigolet, éducateur sportif et membre du club.
Nous, en tant que Brondillans, on va dire l'émotion, elle est multipliée par 10, parce que c'est un vrai coup dur pour nous, parce qu'on attendait ça avec impatience. Et aujourd'hui, savoir qu'il sera pas présent, ça nous fait mal. Après, je pense que c'est aussi un coup dur pour l'ensemble des joueurs de l'équipe de France, parce que jouer avec Karim et jouer sans Karim, je pense que c'est deux équipes complètement différentes.
Les jeunes joueurs de Bron-Terraillon ne cachent pas leur amertume.
Bah forcément on est très déçus, surtout que ça fait depuis l'année dernière qu'il revient en équipe de France. On l'attendait beaucoup, il était beaucoup attendu sur ce mondial.
Ali a souvent côtoyé Benzema ici, il imagine sa déception.
Je pense qu'il doit être très très frustré parce que là il avait l'opportunité de réintégrer le groupe et on sait tous qu'il est presque en fin de carrière, à 34-35 ans on est plus près de la fin que du début.
Mais quoi qu'il en soit, tous le disent, même sans Karim, ils resteront supporters des Bleus pour ce mondial.
Un reportage de Bertrand Frachon pour RTL. L'actualité sportive également marquée par ce match pour la troisième place au mondial de handball féminin et l'équipe de France est menée pour le moment. Il reste 10 minutes de jeu. Les Françaises menées 17-20 face au Monténégro. Du rugby également avec l'équipe de France qui termine sa tournée d'automne sur une victoire. Les Bleus s'imposent 35-17 face au Japon au Stadium de Toulouse. 13e victoire consécutive pour les hommes de Fabien Galthié. Et puis le Grand Prix de Formule 1 d'Abu Dhabi, le double champion du monde en titre Max Verstappen termine la saison sur une victoire. C'était le dernier tour de piste également pour le quadruple champion du monde Sébastien Vettel qui prend sa retraite.
Alors dans le reste de l'actualité, Martin Choc, il y a cette nouvelle info concernant le meurtre de cette adolescente de 14 ans dans le Lot-et-Garonne.
Oui, d'après une information du journal Sud-Ouest confirmée par l'agence France Presse, le suspect de 31 ans a avoué avoir violé la jeune fille. En garde à vue depuis vendredi soir, il a été transféré cet après-midi au palais de justice d'Agen pour être présenté à un juge d'instruction.
Allez, une courte pause et dans un instant, cadeau. Ouais, oui, c'est bientôt Noël. C'est même déjà Noël sur RTL.
RTL dimanche soir. RTL sans filtre. Bertrand Chamerois.
Parlons de Joe Biden. Vous m'auriez dit, Joe Biden a l'intention de reprendre de l'île flottante au dessert, ok. Joe Biden a l'intention de regarder Slam en jogging, oui. Mais Joe Biden a l'intention de se représenter, c'est comme dire François Langlais veut gagner le mondial de la Coupe Mulet. Ça n'a pas de sens.
RTL sans filtre, tous les jours à 7h20. Le Yeti passait encore une journée de mauvais poils. Pauvre bête. Alors quand il entendit qu'il y avait jusqu'à moins 35% pendant la Black Friday Week Amazon, il se fit plaisir avec un sèche-cheveux volumisant pour avoir un style au poil. Trop cool ce look. Économisez jusqu'à 35% pendant la Black Friday Week Amazon. Se termine le 28 novembre.
Moi, ce week-end, j'ai bricolé et j'ai réduit ma consommation d'énergie de 15%. Comment ? J'ai installé un thermostat programmable. Maintenant, la température de la maison s'adapte à toutes mes habitudes.
Pour économiser l'énergie, on agit, on réduit. Je baisse, j'éteins, je décale. Chaque geste compte. Ceci est un message du gouvernement.
À table !
Ah, c'est l'heure de mes médicaments. Tu peux me les attraper ? Ils sont dans le sac de la pharmacie.
Mais papy, tu prends plus tes médicaments Mylan ?
Non, ma chérie. Maintenant, ça s'appelle Viatrice.
Viatrice ? Et qu'est-ce que ça change pour toi ?
Ça change rien, à part le nom.
Mylan devient Viatrice. À part le nom sur les boîtes, vos médicaments restent les mêmes pour ne rien changer à vos habitudes. Viatrice. Permettre à chacun de vivre en meilleure santé à chaque étape de sa vie.
Découvrez le dictionnaire de Laurent Baffy, l'intégrale. Le dictionnaire de Laurent Baffy, l'intégrale, c'est plus de 1000 définitions cultes, drôles, poétiques et impertinentes. Le dictionnaire de Laurent Baffy, l'intégrale, le livre à offrir sans modération aux éditions Kéro.
Eh, hey, mamie Chantal, après toutes ces pubs à Akena, t'as plus rien à raconter.
Tu rigoles de genoux, quoi. Il y a plein de nouveautés chez Akena.
Non, mais une véranda, c'est une véranda.
Je te ferais dire que chez Akena, il y a aussi des abris auto et des pergolas. Et tout est sur mesure. Alors oui, ce sont des pros du choix, mon petit gars.
Ça va, t'enflammes pas.
Plus rien à raconter. Non, mais je rêve.
Akena,
la reine des vérandas.
Et des pergolas.
RTL.
Bonjour, c'est Flavie. Notre type de peau évolue en fonction de notre âge, du climat, de nos hormones, de notre mode de vie. Mais pour être bien dans sa peau au sens propre comme au figuré, il existe des gestes simples à adopter. Avec la gamme Eucérine Urea Repair, testée dermatologiquement, vous hydratez et apaisez durablement votre peau sèche. L'urée est un ingrédient de référence dans le soin de la peau sèche. Il est naturellement présent dans la peau et il a des vertus hydratantes car il attire et il retient l'eau. Il a aussi un effet lissant à partir d'une concentration de 10%. Alors tous les matins, appliquez Eucérine Urea Repair. Vous verrez, ça change le quotidien. Laboratoire dermatologique Eucérine, en pharmacie et parapharmacie. Plus d'infos sur eucérine.fr.
RTL dimanche soir avec Vincent Parisot.
Et Martin Choc qui me rappelle que Noël, c'est dans un peu plus d'un mois. Ça veut dire que le 23 décembre, il sera un peu tard pour commencer à y penser. Les cadeaux, c'est maintenant.
Et oui, vous êtes d'ailleurs nombreux à avoir fait les magasins ce week-end à la recherche d'une bonne affaire ou simplement pour faire un peu de repérage, comme le petit Victor et son père Brice qui a rencontré Étienne Baudu au jouet club de plan de campagne entre Aix et Marseille.
Je voudrais des figurines de Pokémon, aussi des cartes Pokémon. Et aussi, je voudrais encore des défis nature.
C'est un jeu de cartes.
Oui, voilà. Et après, ben, un jeu Pokémon.
Et papa, ça va? Il n'est pas trop exigeant?
Non, apparemment non, il n'est pas exigeant. Sinon, sur les catalogues, quand il regarde, il entoure beaucoup de choses. Voilà, il y a beaucoup de trucs qui lui plaisent. C'est vrai que là, actuellement, c'est beaucoup Pokémon.
On s'en est aperçu.
Oui, ouais, tout à fait. Voilà, après, ce sera beaucoup de jeux de société. Après, des jeux de Switch aussi, parce que monsieur, il joue à la Switch.
Bon, joyeux Noël quand même.
Oui, merci.
Et oui, joyeux Noël à Victor et Brice. Témoignage recueilli par Étienne Baudu pour RTL.
Et 7 jours, 7 reportages.
Et oui, c'est le dernier épisode de notre semaine qui était consacré aux solutions plus économiques pour se chauffer.
On parle souvent des prix du gaz et de l'électricité, mais les prix des granulés de bois ont eux aussi augmenté. Le sac de 15 kilos a pris 50% de hausse en un an. Alors pour faire des économies, certaines communes proposent des achats groupés, mais les fournisseurs ont du mal à suivre, Valentin Larquier.
Au séquestre dans le Tarn, Anne-Laure chauffe les 160 mètres carrés de sa maison avec un poêle à granulés de bois depuis 2020. Son poêle lui a coûté 6000 euros.
L'année dernière, on a consommé 25 sacs, ce qui représentait à l'époque un budget de moins de 150 euros. On a décidé d'avoir une maison très bien isolée avec un mode de chauffage qui est le plus économique possible et le plus écologique.
La combustion des granulés fabriquée à partir de sciure pollue très peu. Ce mode de chauffage séduit de plus en plus. Le maire du séquestre, Gérard Pougel, le remarque en créant l'association Tarn Pelé Granulé. Avec la baisse des stocks et la hausse du prix du sac en septembre, il regroupe les habitants pour acheter auprès des grossistes.
De 15 à 20 qui avaient besoin d'un semi-remorque, on est passé à près de 200 qui avaient besoin de 300 tonnes pour passer tout l'hiver. Bien évidemment, il n'y a aucun distributeur qui a ça. Et les gens qui sont inscrits à l'association nous font passer de l'information en nous disant mais à tel endroit, dans tel magasin, le sac est à tel prix.
Et avec une demande aussi importante, le maire voudrait même lancer un site de production de granulés dans le Tarn.
Valentin Larquet pour la série RTL 7 jours, 7 reportages.
L'actualité à l'étranger, c'est d'abord les États-Unis avec cette fusillade dans une discothèque LGBT. Elle a fait au moins 5 morts et une vingtaine de blessés.
La nuit dernière à Colorado Springs, dans l'état du Colorado, un homme de 22 ans a été interpellé et hospitalisé. Le chef de la police locale salue l'héroïsme de deux clients de la boîte de nuit qui ont arrêté le tireur dans sa tuerie. Nous ne devons pas tolérer la haine, réagit ce soir Joe Biden. Le site de la centrale nucléaire de Zaporijjia, une nouvelle fois bombardée. Le patron de l'Agence internationale de l'énergie atomique fait état de puissantes explosions. Raphaël Grossi, qui a eu Emmanuel Macron au téléphone dans la foulée. Une nouvelle fois, la Russie et l'Ukraine se renvoient la responsabilité des frappes. Il n'y aurait pas de conséquences sur la radioactivité dans la région, d'après les Russes.
Voilà, et puis je vous donne les dernières nouvelles des handballeuses françaises qui jouent pour la troisième place à l'Euro de handball face au Monténégro. Eh bien, c'est très très chaud. Il reste 4 minutes et les Français sont menés d'un petit but, 20 à 19. Je peux vous dire qu'on va se régaler au début d'On refait le sport avec Isabelle Langer. On va vivre ça. Le temps demain, lundi 21 novembre.
Avec une nouvelle dégradation qui arrive par l'ouest, Valérie Quintin.
Oui, il va pleuvoir dès demain matin du Cotentin jusqu'aux Pyrénées. Des pluies qui seront soutenues, assorties de fortes rafales de vent qui iront de 50 à 70, voire 90 km/h en pointe sur la pointe bretonne. Dégradation qui traversera le pays dans le courant de la journée. On la retrouvera dans l'après-midi du nord au bassin parisien en glissant vers le massif central et le Languedoc-Roussillon. Finalement, il n'y a que le flanc est qui restera à peu près protégé avec même des éclaircies pavilaines en Alsace. La Corse devrait également apercevoir le soleil. Et puis, une fois la dégradation passée, Normandie, Bretagne, Pays de Loire et Vendée retrouveront aussi quelques éclaircies, mais il y aura toujours beaucoup de vent. Les rafales pourront même atteindre les 100 km/h en pointe sur le Finistère dans le courant de l'après-midi. Les températures, 1 degré demain matin à Aurillac, 6 à Paris et Metz, 7 à Brest, 8 à Perpignan. Dans l'après-midi, ça baisse, 8 degrés à Reims, 10 à Paris et Lyon, 11 à Cherbourg, 13 à Montpellier, 16 pour Biarritz.
Valérie Quintin, spécialiste météo à RTL.
Merci beaucoup, Martin Choc. Et donc, elle est là, Isabelle Langer. C'est chaud hein, ce qui se passe pour ce match, pour la 3e place de l'équipe de France face au Monténégro. 20 partout.
20 partout. Il reste 4 minutes. Peut-être vers des prolongations, on va voir, à moins qu'elles arrivent à remporter cette belle médaille de bronze pour cette équipe de France. On sera en ligne avec Philippe Bana en fin d'émission.